cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 27 mai 1993.
Ce qui caractérise l'activité artistique au sens très large, c'est-à-dire la capacité de l'homme de transformer l'univers, de l'achever, c'est que cette activité regarde en premier lieu notre univers, la matière, et non pas la transformation du sujet, et toute la différence entre l'art et la prudence. La prudence regarde l'homme dans sa recherche des moyens qui lui permettent d'atteindre sa fin. Donc la prudence est faite en premier lieu pour ordonner l'homme dans son capital de vie qu'il possède. Ordonner ses diverses activités. Voyez, et comprendre comment il peut se dominer en vue d'atteindre sa fin. Tandis que l'art est premièrement ordonné à l'œuvre. C'est là le problème par rapport à la personne. L'œuvre est extérieure à la personne. Si l'œuvre est extérieure à la personne, l'œuvre ne modifie pas la personne. Je modifie l'univers, le milieu dans lequel je suis. Cependant, au plan où nous nous plaçons ici, c'est-à-dire au plan de la personne humaine, je peux essayer de préciser comment l'art transforme la personne humaine. Elle ne transforme pas en premier lieu la personne humaine, puisqu'elle transforme l'univers. Une œuvre extérieure à l'homme. Mais cependant, toute activité humaine et d'une manière très particulière, l'art transforme la personne humaine. En second lieu, et c'est cette transformation que l'art produit sur la personne humaine qu'il faut essayer de préciser si je regarde le problème de la personne. Vous voyez, c'est là qu'il faut bien comprendre entre le point de vue de l'adjuré et du fadjuré. L'adjuré est premièrement pour la personne. Transforme en premier lieu mon âme. Et justice. La justice qui regarde le droit de l'autre. Cependant, a une répercussion immédiate sur moi-même. Quand je paie mes impôts, je me transforme. Je me dépouille de mon avoir pour payer mes dettes. Et en payant mes dettes, je me qualifie. L'acte de justice me rend bon. Mais en me dépouillant, je me dépouille du bien matériel pour m'enrichir spirituellement. C'est comme ça que les caisses de l'État peuvent se remplir. il se donne. Quelqu'un qui serait d'une dévotion parfaite, n'est-ce pas, sans avoir aucun pouce d'artiste, ben oui, il serait dévot et il se tairait. Et moi, pour prier, je dois me taire. Oui, attention, on vous demande de chanter. C'est la générosité du chantre. C'est qu'il accepte d'être là pour les autres. En premier lieu. Évidemment, c'est pour Dieu. C'est sûr. Mais c'est pour les autres. La liturgie est l'œuvre parfaite de la charité fraternelle. C'est pour les autres. Il fera attention de bien chanter pour les autres, même si ça le distrait un tout petit peu. Il a un regard premièrement comme ça, ça c'est le propre de l'artiste. Il est très attentif à l'œuvre. Et l'œuvre, c'est pas lui. Tandis qu'au contraire, l'homme vertueux est très attentif à lui. Et c'est le danger de tomber dans le pharisaïsme, de tomber dans le repli sur lui. C'est le défaut d'une morale qui ne serait pas contemplative, d'une morale qui serait trop tournée vers la perfection. Mais touchons au plan de la personne la différence entre l'agir, le point de vue moral, et le point de vue du faturé. Je crois que ça, on peut le saisir tout de suite. Et c'est important, c'est même très important. Oui, le point de vue moral, sagesse, pratique. Sagesse pratique. Donc, ça m'organise intérieurement. Je suis dans l'immanence de l'aspect moral. La morale perfectionne mon intérieur, mon intériorité affective. Pas mon intériorité, premièrement, de connaissance, mais mon intériorité affective. L'homme moral est un homme qui, avant tout, aime, et tout est ordonné à sa qualité d'amour. Alors vous allez dire, mais l'amour c'est pour l'autre. Oui, l'amour est pour l'autre, mais l'amour tend vers la réciprocité. Tandis que l'artiste est premièrement pour son œuvre. C'est la différence entre l'ami et l'artiste. Toujours très difficile quand on épouse un artiste. Parce qu'il y a une rivalité entre l'œuvre que l'artiste veut réaliser et en tant qu'artiste, il doit réaliser cette œuvre. Et puis, l'époux ou l'épouse. Il y a une rivalité entre les deux. Et là, vous saisissez bien ce qui caractérise la personne de l'artiste et la personne humaine. La personne de l'artiste est bien humaine, mais elle est de l'artiste. Tandis que le point de vue moral est humain. Ça fait sourire. Qu'est-ce qui va s'occuper? se consacrer à l'horreur. Vous avez envie de dire, écoutez, non, hein. Regardez votre œuvre, vous feriez mieux de vous consacrer à autre chose. Et c'est très significatif, ça. Alors, au point de vue de la personne humaine, c'est là qui est intéressant, parce qu'à première vue, on a l'impression que l'art ne perfectionne pas l'artiste. Où ça se situe? On a l'impression que l'artiste, il est ordonné à l'œuvre, et l'œuvre est antidestin. Son chien de manière différente. On voit très bien. bien celui qui, son petit monde, son petit univers. Et puis l'artiste, au contraire, toute voile dehors, et tout entier tourné vers l'œuvre. Alors, ça peut être magnifique, ça peut être terrible aussi. Les deux extrêmes. L'artiste devient facilement révolutionnaire et la prudence facilement. pour un petit bourgeois. Voyez, ceci pour la personne humaine. Alors, l'art doit apporter à la personne humaine une harmonie entre le sensible, le vrai sensible, les sensibles propres, l'imagination. Limite, l'artiste est merveilleux. situation limite, l'homme trop prudent est ennuyeux. Ça se situe tout de suite. L'un verra les possibles, l'autre regardera le passé. On n'a jamais vu une situation comme celle-là. On est dans le creux d'un vague. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Et c'est l'homme prudent. Il se réfère au passé. C'est très important pour se dire ce que c'est que la personne, ça. Parce que la personne humaine se développe au niveau passé, présent, futur. Le philosophe, c'est l'homme du présent, de ce qui existe, de ce qui est. L'artiste risque de ne pas voir ce qui est et de regarder le futur. C'est pour ça que de temps en temps, il déloge. Il n'est plus réaliste du tout, il vit dans le futur. Et l'homme prudent vit du passé. Oui, alors il y a un équilibre là, de sagesse philosophique, de prudence et d'art. Et ceci se répercute pour chacun d'entre nous. Et là, vous saisissez comment les trois perfectionne l'homme. Ce qui est passé, ce qui est futur. Je crois que c'est une manière, au plan philosophique, de saisir le développement des trois. Le réalisme du philosophe. Et quand le philosophe perd ce réalisme, alors c'est l'artiste. Mais c'est pas le grand artiste. Ou bien alors, c'est l'homme prudent. La personne humaine, au plan philosophique, c'est l'intelligence de ce qui est. L'homme prudent et la personne formée par la prudence, c'est l'homme du passé. Et l'artiste, c'est l'homme du futur. Je peux dire ça, et ça, ce serait très intéressant pour bien voir les répercussions au plan psychologique. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit à propos de Charles Audier ? Sécurité, autonomie, sécurité, valorisation. Autonomie, le présent. Valorisation, le passé. Sécurité, le futur. Là, vous voyez les trois aspects. Et c'est vrai que ces trois aspects se développent très différemment selon le philosophe, la sagesse philosophique, le point de vue du prudent et chez l'artiste. Alors, évidemment, au point de vue philosophique, je vois les trois et je constate les trois. Je constate que mon intelligence peut se fourvoyer dans l'imagination du futur. Je vois que mon intelligence peut s'endormir complètement dans le voyage du passé. Et je vois que mon intelligence n'est parfaitement elle-même que dans le présent. Et le présent est pour le futur. Et le présent s'enracine dans le passé. C'est là où la vraie personne humaine a besoin de ce développement prudentiel et de ce développement artistique pour être une personnalité artistique qui se développe entièrement d'un point de vue de l'art. Je vois une personne humaine qui se développe entièrement du côté prudentiel. Et je vois aussi une personne humaine qui se développe philosophiquement. On a besoin des trois. Mais c'est intéressant de retrouver ces trois dans ce qu'elles sont de caractéristiques. C'est bien évident que je peux me développer de ces trois façons. Et que les trois sont authentiquement humaines. Et que les trois peuvent devenir monstrueuses quand elles rejettent l'autre. Un artiste qui rejette complètement la prudence devient un monstre. Un homme prudent qui rejette complètement l'art devient un monstre. Un philosophe qui rejette complètement, il n'est plus philosophe. Il n'a plus. L'homme prudent qui refuse le passé, qui refuse l'avenir, n'est pas vraiment l'homme réaliste. Le philosophe réaliste ne peut pas les refuser. Mais je vois très bien que c'est l'axe du présent qui me donne le vrai sens du passé et le vrai sens du futur. Et là, je m'aperçois de l'importance de la recherche de la vérité. C'est la recherche de la vérité qui peut seule équilibrer l'artiste, équilibrer l'homme prudent. Et c'est le rôle propre du philosophe. Donc je crois qu'il est très important pour nous de saisir donc ce développement humain de l'artiste. Il développe le domaine des possibles dans l'ordre de l'imaginaire. Il développe une imagination fertile, une imagination qui sera le vivier de toute son inspiration, auquel il reviendra constamment puiser. Et cette imagination, elle se nourrit, elle se développe grâce à l'expérience interne et externe. Et on verra alors les deux développements très nets de l'imagination. Une imagination qui se développe à partir de l'expérience sensible. Une imagination qui se développe à partir d'une expérience interne. Et vous aurez alors deux grandes parce que c'est pas du tout rigide. À chaque époque, il y a du classique et du romantique. Et le classique et le romantique se distinguent à chaque époque. Notre romantique de notre monde d'aujourd'hui n'est pas celui de l'âge romantique du clair de lune, tout à fait différent. C'est un romantique très très différent. Il serait intéressant de saisir quel est le romantique de notre monde d'aujourd'hui. Par où l'art désagrège l'homme? Parce qu'un art romantique et purement romantique désagrège.
Seul le présent permet de ne pas remonter à l'infini.
rappeler cette fameuse parole d'Aristote qu'il ne faut jamais oublier. Le solitaire est un dieu ou une brute. Et c'est vrai. Quand vous fréquentez des hommes solitaires, le vrai solitaire qui est solitaire depuis 30 ans ou 40 ans, ou vous êtes en face d'un dieu ou en face d'une brute. Très curieux, ça. Le vieux garçon ou la vieille fille, ça c'est la brute. Et c'est le brut, le vieux garçon, qui n'est que vieux garçon. Au contraire, celui qui n'aspire qu'à Dieu. Au niveau métaphysique, quand je ne regarde que la personne humaine dans ses dimensions humaines, recherche de la vérité, capacité d'aimer, autonomie, puis-je parler de solitude? Est-ce que la solitude
à soi-même,
c'est très mauvais. La vraie et solitude, c'est la relation avec le solitaire. C'est la seule chose qui justifie la solitude et qui permet de dépasser le politique. Autrement, on tombe dans quelque chose qui n'est plus sain au point de vue humain et qui ne développe plus l'homme. Donc ça, c'est très important à souligner au point de vue de la personne. La personne humaine au point de départ, dans ce premier moment de la personne humaine, dans cette éthique fondamentalement humaine, mais qui n'a pas encore découvert l'existence de l'être de Dieu. La personne humaine réclame le point de vue politique, réclame la famille et réclame l'aspect politique. Alors, au plan personne, puisque nous nous restons toujours dans cette perspective, qu'est-ce que c'est que le « je suis » ? Alors, il y a le « je suis » du père de famille, de la mère de famille. Je ne parle pas de l'enfant, puisque il n'a pas encore un « je suis » qui est vraiment stabilisé, qui est vraiment autonome. Donc il y a le « je suis » du père et de la mère, de la famille. La famille implique la première relation sociale et le fondement de la relation politique. Je suis père, je suis mère. Il y a là une dimension spéciale, qui est la dimension de l'homme qui se développe dans une famille. Et il y a une répercussion, une modalité particulière de la personne humaine. Panier. Voyez la joie d'un jeune foyer, d'un jeune père de famille. C'est toujours très beau. L'éclosion de la paternité. Et l'éclosion de la paternité joue au niveau de la personne humaine. L'éclosion de la maternité joue au niveau de la personne humaine. Alors qu'ajoute au point de vue de la personne le point de vue de la paternité et la maternité? Je crois qu'aujourd'hui, c'est très important de bien comprendre cela et de le proclamer. Si vous voulez faire une philosophie de la famille, ça aboutit à ça. Au niveau de la personne humaine, dans ce qu'elle a de fondamental, qu'ajoute le point de vue de la paternité, le point de vue de la maternité. Et comment paternité et maternité se nouent. Nous avons vu que l'amour d'amitié nouait la personne humaine. Que cette amitié prend une forme particulière dans ce que nous appelons le mariage, dans le fait de fonder un foyer. Il y a un caractère spécial, une modalité spéciale qu'on doit essayer de comprendre, du reste, que représente exactement au point de vue philosophique, la personne humaine en tant qu'elle est liée dans l'amitié. Il faut une S'il n'y a pas une véritable amitié et qu'il y a le don des corps sans l'amitié, ça ne tiendra pas. Je dois rappeler ça au point de vue personne. Le foyer, la personne humaine, au niveau du mariage, est premièrement un amour d'amitié entre l'époux et l'épouse. Et c'est cet amour d'amitié qui assume les dons des corps. S'il n'y a pas cet amour d'amitié, le don des corps se réalisera au niveau passionnel et au niveau sexuel et ne sera plus un véritable don des corps humain. Ça deviendra animal.